Je sais pas si c'est aussi votre impression. Ouais. Non, encore lui. Voilà, alors on va faire simple ce matin. Mon message consistera en une charte et deux mots. Ce sera simple, mais le projet est ambitieux parce que j'aimerais vous proposer un avenir meilleur avec cette charte et ces deux mots. Alors les CNews de cette semaine parlaient déjà des deux mots que je vais aborder ce matin, et je posais la question « lesquels ?». Est-ce que vous avez pu y réfléchir ? Alors pas du tout, vraiment. Les deux mots, c'est « justice » et « ouverture ». Si vous retenez ça, vous n'avez plus besoin d'écouter la suite du message. On retrouve ces deux thèmes de la justice et de l'ouverture au chapitre 56 et 66 du livre d'Ésaïe, livre que nous avons commencé à parcourir depuis le mois de janvier, et nous poursuivons notre méditation de ce livre. Alors pourquoi ces deux chapitres 56 et 66 ? C'est que nous sommes dans la dernière section du livre, avec des belles promesses pour Israël, pour les nations, et puis notre passage s'inscrit... Je vous l'ai mis sous forme d'image, de la ligne tout en bas, toutes les nations sont invitées à intégrer la famille d'alliance de Dieu. Voilà ce que nous disent les chapitres 56 et 66, toutes les nations sont invitées à intégrer la famille d'alliance de Dieu. Ces chapitres-là interviennent à un moment crucial. C'est un moment crucial pour l'histoire d'Israël, puisque souvenez-vous, ou peut-être pas, mais dès le chapitre 39 du livre d'Ésaïe, le peuple d'Israël est emmené en exil. Désormais, le peuple d'Israël peut revenir dans son pays, 190 ans plus tard. Alors forcément, après 190 ans, il y a des choses qui ont un petit peu changé. Et le retour d'Israël dans son pays ne faisait pas sans quelques tensions. Et c'est à cette occasion-là, quand le peuple retourne dans son pays, que Dieu leur donne une charte pour vivre en communauté. Et cette charte contient ces deux idéaux de la justice et de l'ouverture. On ne va pas plus attendre pour lire cette charte au chapitre 56 et les versets 1 à 8. Oh, merci Mireille. Voici ce que dit l'Éternel. Respectez le droit et pratiquez la justice, car mon salut est sur le point d'arriver, et ma justice est prête à se révéler. Heureux l'homme qui adopte ce comportement et le fils de l'homme qui reste fermement attaché, qui respecte le sabbat au lieu de le violer et veille sur ses actes pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera certainement de son peuple » et que l'eunuque ne dise pas « Je ne suis qu'un arbre sec ». En effet, voici ce que dit l'Éternel. Si des eunuques respectent mes sabbats, choisissent de faire ce qui me plaît et restent attachés à mon alliance, je leur donnerai dans mon temple et à l'intérieur de mes murailles une place et un nom qui vaudront mieux pour eux que des fils et des filles. En effet, je leur donnerai un nom éternel qui ne disparaîtra jamais. Quant aux étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour lui rendre un culte, pour aimer son nom, pour être ses serviteurs, tous ceux qui respecteront le sabbat, au lieu de le violer, qui resteront attachés à mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront acceptés sur mon autel, car mon temple sera appelé une maison de prière pour tous les peuples. Déclaration du Seigneur, de l'Éternel, de celui qui rassemble les exilés d'Israël. J'en rassemblerai d'autres en les ajoutant à lui, aux siens déjà rassemblés. N'est-ce pas une belle charte ? Et nous retrouvons ces deux thèmes, justice et ouverture. Alors d'abord la justice. Pour bien comprendre cette charte, il faut peut-être comprendre ce qui n'est pas allé dans l'attitude du peuple d'Israël et ce qui les a conduits à l'exil. Au début du livre, Ésaïe 5, verset 7, Ésaïe dénonce l'injustice pratiquée par le peuple de Dieu. Et l'injustice en question était due à un divorce entre la religion et la justice sociale. Ça veut dire qu'on pratiquait la religion, les rites, mais on ne se souciait pas de l'autre. C'est comme si à la sortie du culte, vous dites « c'est bon, j'ai accompli mon devoir de chrétien », et du coup tout aspect moral vous quittait à ce moment-là. Finalement, tant que nous sommes allés au culte, c'est bon, nous avons fait notre bonne action. Est-ce qu'il ne manque pas quelque chose à cette attitude ? Nous ne sommes pas chrétiens que le dimanche, mais tout au long de la semaine, où nous sommes invités à pratiquer la justice. Alors Israël n'avait pas fait cela. Il y avait une séparation entre la religion qui était menée par le rite et puis la justice sociale qui n'était plus du tout observée. Et il y a eu beaucoup d'avertissements. Ils n'ont pas changé. Et puis l'exil. Mais maintenant, avec le chapitre 56, alors que le peuple d'Israël retourne sur sa terre, c'est l'occasion pour Israël de prendre un nouveau départ. Et le cadre est posé dès le verset 1, où Dieu leur dit « Respectez le droit et pratiquez la justice. Car mon salut est sur le point d'arriver, et ma justice est prête à se révéler. » Respectez le droit et pratiquez la justice. Et Dieu montre que c'est lui qui est en premier concerné par la justice. Ma justice est prête à se révéler. Dieu s'est toujours engagé avec passion pour la justice. Et il invite maintenant son peuple à en faire de même. Un commentateur a dit ceci, je trouve ça résume bien l'enjeu. Leur vie communautaire à Israël doit être le signe visible que le royaume de Dieu est à portée de main. La manière dont le peuple va vivre doit montrer que le royaume de Dieu est à portée de main. Autrement dit, le peuple doit vivre selon les principes du royaume de Dieu. Ce n'est pas une mince affaire. Alors on peut être content, on se dit c'est bon, c'est pas pour nous, c'est pour Israël. On est tranquille. Mais le verset 2 m'interroge. Le verset 2 dit quand même « Heureux l'homme qui adopte ce comportement ». Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Heureux l'homme qui ? Les béatitudes. Voilà. On retrouve aussi toute cette idée reprise dans les évangiles par Jésus, où finalement on est aussi interpellé à vivre cette justice. La justice de Dieu, c'est finalement le style de vie des disciples. Si Dieu est juste, alors son peuple doit être un signe de ce royaume qui vient. Jésus dit à plusieurs reprises à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde, une ville située sur une montagne. » Nous sommes appelés à transmettre quelque chose. Et ce quelque chose, c'est la justice du royaume de Dieu. Et de notre vision d'Église pour cette année, porteur d'espérance, est-ce que la justice n'est pas une part essentielle à notre vision d'Église ? Nous avons vu aussi une notion de sabbat dans les versets que nous avons lus. Ça m'a interpellé, je me dis, quand on me dit de pratiquer la justice, je pense d'abord à traiter les autres avec égalité, donner de l'argent aux pauvres, etc. Je ne pense pas en premier lieu au sabbat. Qui l'aurait fait ? Personne ? Oui, Jane, oui, bon, bravo. forcément. Mais on n'aurait pas... occidentaux, nous, penser au sabbat. Alors je me suis dit, pourquoi est-ce que la justice est liée au sabbat ? Je me permets de vous faire un lien, parce que je trouve très intéressant ce qui est souligné ici. c'est que le sabbat, c'est le repos. Le repos pour tous. Pour les maîtres, pour les serviteurs, pour tous. Un jour par semaine, Dieu a donné au peuple d'Israël un jour de repos. Pas seulement pour l'élite, mais pour tous, maîtres et serviteurs. Et le sabbat montre que finalement, on redevient tous serviteurs du Créateur. On s'arrête un jour où on ne crée rien, et on redevient simplement serviteur en face du Créateur. Le sabbat, c'est retrouver sa place devant le Dieu Créateur, maître ou serviteur. Le sabbat nous aide à considérer notre finitude face à la grandeur de Dieu. Alors, quand on pratique le sabbat, tout être humain est mis à égalité devant Dieu. Il n'y a plus de hiérarchie sociale. Tous créatures face au Dieu créateur. Et c'est peut-être là aussi le sens de nos cultes. En nous rassemblant ce matin, nous n'avons certainement pas la prétention d'être mieux qu'un autre ou qu'une autre. Mais ensemble, nous sommes tous égaux, peu importe où nous en sommes sur notre chemin de foi. Nous sommes tous ensemble pour nous retrouver face à notre Créateur. Donc la justice liée au sabbat, il y a cette notion d'égalité. Et bien souvent, on a tendance à penser, ben lui, il n'a pas tout à fait compris comme moi, alors il a tort. La justice revêt cette notion d'égalité. Et c'est certainement d'autant plus important pour un peuple qui revient de 190 ans d'exil et qui doit réapprendre à vivre ensemble. Vivre l'égalité. Ça m'amène à ce deuxième mot qui est l'ouverture. Et dès le verset 3, nous lisons « Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera certainement de son peuple » et que l'eunuque ne dise pas « Je ne suis qu'un arbre sec ». De quoi est-ce qu'on parle ici ? Alors pour bien comprendre, il faut qu'on revienne à la loi de Moïse, donc au Deutéronome 23, versets 2 à 7, pour ceux qui prennent des notes. Et c'est ce chapitre-là dit « Interdit à l'eunuque et à l'étranger de faire partie de l'assemblée de Dieu ». Alors pourquoi de telles lois ? Je ne sais pas. Mais à la lumière du livre d'Ésaïe, Dieu ne cherche manifestement pas à exclure l'eunuque et l'étranger. Et même avant Ésaïe, l'histoire de Ruth et de Rahab nous montre que les étrangers peuvent être inclus dans le peuple de Dieu. Derrière ces lois, qui paraissent assez carrées quand même, hein, où l'eunuque et l'étranger ne peuvent pas faire partie de l'assemblée de Dieu, ce n'est pas le souci de rejeter tel ou tel individu, mais d'éviter l'idolâtrie et la corruption religieuse. Les mariages avec des étrangers pouvaient conduire à l'abandon de la foi. La mutilation physique était aussi souvent pratiquée dans des cultes païens. Le souci de ces lois, c'est d'éviter la corruption religieuse, plutôt que de mettre des gens dehors. Vous voyez la pédagogie ? C'est vrai que c'est un peu carré en lisant ça comme ça. Maintenant, nous sommes au seuil d'une ère nouvelle, au chapitre 56. Et Dieu a l'intention de ramener dans son royaume ceux qui sont dehors. Et cette charte invite le peuple d'Israël à faire attention au légalisme qui empêcherait cette perspective d'accueil et d'ouverture. L'ouverture décrite par Ésaïe montre une communauté qui est ouverte et bienveillante envers ceux qui veulent s'attacher au Seigneur. Alors ça m'amène à une question. Quelle ouverture aujourd'hui pratiquée dans notre Église ? Quelle ouverture pour d'autres cultures, pour des étrangers. Quelle ouverture pour des personnes en recherche d'identité. Quelle ouverture pour des personnes qui douteraient de leur genre. Quelle ouverture est-ce que nous avons? Je crois que les deux clés laissées par Ésaïe sont valables. Justice et ouverture. Justice où nous devons refléter le royaume de Dieu, où nous sommes finalement, comme nous l'avons dit toutes et tous, égaux devant Dieu. Et bien souvent, je crois que l'histoire de l'Église nous montre que nous n'avons pas bien compris cette notion de justice, où nous sommes toutes et tous égaux pour nous approcher de Dieu. L'histoire de l'Église est teintée de taches sombres, et je le regrette. Quels que soient nos questionnements, notre cheminement, comment on peut se sentir dans notre genre, nous sommes toutes et tous des créatures qui peuvent s'approcher du Créateur. Et l'ouverture découle de cette justice. Si nous partons du principe que nous sommes tous égaux et qu'aucun ne mérite plus qu'un autre d'accéder à Dieu, si nous avons compris cela, nous pouvons pratiquer l'ouverture de manière sereine. Si on manque d'accueil, c'est qu'il y a peut-être quelque chose que nous n'avons pas compris dans la justice de Dieu. Nous avons peut-être déjà appliqué notre propre justice et nos propres critères. L'ouverture, c'est finalement reconnaître que tous ceux qui veulent s'approcher de Dieu avec un cœur sincère peuvent le faire. Alors lorsqu'on parle d'ouverture, j'aimerais clarifier quand même une chose. L'ouverture ne veut pas dire devenir libre penseur et tout accepter. Mais il ne faut pas que notre justice empêche des gens de pouvoir s'approcher de Dieu. L'ouverture, c'est permettre à chacune et à chacun de pouvoir s'approcher de Dieu. Et quand on s'approche de Dieu, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le droit de ne pas être d'accord avec l'autre. C'est pas grave. L'autre, il a autant le droit que moi de pouvoir s'approcher de Dieu. Il y a un exemple assez flagrant de ces deux mots, justice et ouverture, dans l'exemple d'Étienne. Étienne Fuchs, je ne parle pas de toi. Quand tu écouteras l'audio, parce que je ne te vois pas. Je te salue, Étienne. Même si tu as un exemple. Étienne, dans le livre des Actes, a vécu un récit de conversion assez étonnant. On lit cela en acte 8, avec ce récit de la conversion de l'eunuque éthiopien. Cet eunuque éthiopien est d'abord un étranger et un eunuque. Il se convertit et il se fait baptiser. Alors ce qui est intéressant dans le livre des Actes, c'est qu'on nous dit qu'il est en train de lire le livre du prophète Ésaïe. Coïncidence ? On ne sait pas. Mais Étienne, cet eunuque éthiopien est l'exemple parfait de ce qui est en train de ce qu'Ésaïe est en train d'annoncer. Et Étienne, cet apôtre, cet disciple, n'a pas été un obstacle pour que cet eunuque puisse s'approcher de Dieu. Au contraire. Il lui a expliqué les Écritures. Il a baptisé cet eunuque. Peut-être qu'Étienne aurait dû dire « Moi, je suis juif, j'ai compris. J'ai une certaine tradition derrière moi. Toi, qui es-tu ? Étranger. » Je pense que tu avais peut-être une interprétation aussi un peu douteuse du livre d'Ésaïe, peut-être, on ne sait pas trop. Étienne a pris le temps de cheminer avec lui. Et ce qui se passe dans les Actes, c'est l'accomplissement finalement de ce qu'Ésaïe annonce au chapitre 56 et de manière plus brillante encore au chapitre 66. Et je lirai avec vous les versets 18 à 24. « Moi, je connais leurs actes et leurs pensées. Je viens rassembler toutes les nations de toutes langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai un signe au milieu d'elles et j'enverrai plusieurs de leurs rescapés vers les autres nations, Tarsis, Pulpul et Elude. Les peuples qui tirent à l'arc, Tubal, la Grèce et les îles lointaines, les hommes qui n'ont jamais entendu parler de moi ni vu ma gloire. Et ils révéleront ma gloire parmi les nations. Ils amèneront tous vos frères, issus de toutes les nations, en offrande à l'Éternel. Ils les amèneront sur des chevaux, des chars, des litières, des mulets ou des dromadaires à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel, tout comme les Israélites amènent leurs offrandes à la maison de l'Éternel sur des plats purifiés. Parmi eux aussi, je prendrai des prêtres et des lévites, dit l'Éternel. En effet, le nouveau ciel et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, déclare l'Éternel. De la même manière, votre descendance et votre nom subsisteront. À chaque début de mois et à chaque sabbat, tout être vivant viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et quand on sortira, on verra des cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. En effet, leur ver ne mourra pas, et leur feu ne s'éteindra pas, et ils seront pour chacun un sujet d'horreur. Tel est le dernier mot du livre d'Ésaïe. Le chapitre 66 reprend l'idée du chapitre 56, mais va encore plus loin. On parle de la nouvelle création. Et nous avons là le programme complet de Dieu pour l'évangélisation du monde. Aux mauvaises pensées, aux mauvaises actions des êtres humains, Dieu amène une réponse de grâce. Dieu amène une réponse de grâce. Les nations peuvent se tourner vers lui. Dieu place un signe parmi les nations. Et ce signe, c'est Israël. Israël qui a pour mandat de refléter cette offre de grâce en pratiquant la justice et l'ouverture. Le mandat que Dieu confie à Israël, c'est de transmettre cette œuvre à toutes les nations. On sait tous les nouvelles que vit ce pays en ce moment. Et je crois que nous pouvons prier pour que ce pays retrouve sa mission que Dieu lui a confiée. D'être ce pays fer de lance pour annoncer la grâce et le salut aux nations. Ce n'est pas le sentiment que j'ai quand je lis les nouvelles. Et il y a un enjeu de pouvoir aussi se mettre en colère, ne pas comprendre. Mais en même temps, Dieu choisit ce peuple-là pour témoigner sa grâce au reste des nations. Et parce que nous pouvons avoir la bonne nouvelle, la parole de Dieu aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des Juifs qui l'ont transmise. Et nous sommes bénéficiaires aujourd'hui. Et avec eux, nous avons aussi ce mandat, nous les rejoignons dans cette idée d'annoncer l'Évangile au reste du monde. Ce chapitre d'Ésaïe, où finalement ce signe revient presque à tous les versets, nous invite à intercéder pour ce peuple, pour qu'il retrouve sa mission d'origine, sa mission que Dieu lui confie. Non pas qu'il soit guidé par la politique, la géopolitique, ou par des décisions de certains dirigeants, mais que ce peuple puisse retrouver Dieu comme vis-à-vis. Le verset 24 que nous avons lu et qui termine ce livre d'Ésaïe avec ce mot « horreur ». Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. En effet, leur ver ne mourra pas et leur feu ne s'éteindra pas. Et ils seront pour chacun un objet d'horreur. C'est une finale déroutante. Tu vois, quand on écrit un livre, on ne finit pas un livre comme ça. Ça finit mal. On est d'accord. Il aurait dû s'arrêter juste avant. Avant, je vous le lis. À chaque début de mois et à chaque sabbat, tout être vivant viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel, fin du livre. Ça aurait été beau, hein? Mais non, ils continuent. Ils seront un objet d'horreur. Ésaïe, qu'as-tu fait? Ésaïe est en train quand même de nous rappeler qu'il y a un choix à faire. Il y a ce choix de suivre Dieu ou de ne pas le suivre. Il y a le choix de répondre à son offre de grâce ou non. Et ce rappel n'est pas là pour nous faire peur. Ce rappel du verset 24 est là pour nous dire qu'il ne faut pas prendre à la légère l'appel de Dieu. Il nous montre aussi la grandeur de notre rédemption, que Jésus a donné sa vie pour nous, pour que nous n'ayons pas à subir ce sort terrible. Quels sont les deux mots que nous avons parcourus ce matin? Et ouverture, on reposera la question dimanche prochain. Avec ces deux mots, vous avez tout ce qu'il faut pour répondre à ces deux questions que je vous laisse à partager lors du repas de midi ou dans vos cellules de maison. Pour laisser comment vivre, donc l'Église ici, comment vivre et pratiquer la justice et l'ouverture, pour que le plus grand nombre puisse s'approcher de Jésus. Et puis à un niveau plus personnel, comment est-ce que je vis cette dimension de justice et d'ouverture au quotidien? Je vous invite à la prière. Notre Dieu, si tu nous invites à la justice, à l'ouverture, c'est parce que c'est toi qui as donné ta vie pour nous. Seigneur, l'apôtre Paul nous dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ce n'est pas par nos mérites que nous pouvons avoir accès à toi, mais c'est parce que tu as donné ta vie. Et Seigneur, en conséquence de cela, nous voulons répondre par ta justice, par ton ouverture, ton accueil, Seigneur. Seigneur, nous avons aussi mentionné ce mouvement de mission qui part du peuple d'Israël pour aller vers toutes les nations. Et Seigneur, nous avons ta parole aujourd'hui. Et nous voulons revenir aux sources, à l'origine, en te demandant que ce peuple puisse se tourner vers toi. Alors qu'il erre bien loin, Seigneur, nous te prions qu'il puisse reprendre le mandat que tu lui as laissé. En ton nom, Jésus. Amen.